16h-18h, Carl Zéro sur Europe 1.
Oh, mais c'est pas vrai.
Ça fait quand même une surprise, non ?
Un quiz citoyen qui vise à réduire la fracture sociale. Tel est le concept du jeu politico-médiatico-sociétal de Carl Zéro que vous retrouvez chaque jour de la semaine de 16h à 17h sur Europe 1. Au menu de l'actu, des blind tests, des vrais faux, des interviews décalées, des anecdotes et beaucoup de bonne humeur. Allez, place au premier duel.
Chers amis, mes chers compatriotes, indubitablement, un duo de talents épatants s'apprête à croiser le fer aujourd'hui et va ravigoter vos portugaises ensablées. À ma droite, non, à ma gauche, non, à ma droite, une légende plus vivante que jamais, un chanteur comme on n'en fait plus, certes un peu cabossé, mais une icône culte française qui, malgré ses 90 printemps, va encore en remontrer. Abouba et Caris réunis, Marcel Amour.
Vas-y, je fais un cri de boxeur. Je les trouve un peu timides, alors j'en rajoute juste un peu. Ouais, ouais. Tu peux y aller. Vas-y.
Une deuxième hola pour Marcel, il en rêve. Face à lui, lui aussi, il va vouloir ça hola, un romancier que le monde nous envie et à qui même les gilets jaunes pardonnent d'être macroniste, tant il a du talent, ils achètent aussi ses livres. Voici Philippe Besson. Ouais.
Bonjour, bonjour.
Alors, cher tonton flingueur, soyez les bienvenus déjà sur Europe 1. Vous allez devoir, pendant une heure, répondre avec spontanéité, clairvoyance et bon sens à un nombre sidérant de questions d'écono-politico-sociétales. C'est ça le programme. Et au terme de ces 5 épreuves, l'un d'entre vous repartira avec un cadeau mirifique. Tandis que l'autre, Karl...
Attendez, je check. Eh bien, l'autre ira bien se faire foutre. Mais avant tout, il vous faut choisir votre camp, car vous le savez, notre quiz citoyen a pour but de réduire la fracture sociale, voire à terme, de l'éradiquer.
Pour cela, l'un d'entre vous va représenter la France d'en haut et l'autre, la France d'en bas, pendant une heure. Cher Marcel Amon, veuillez...
La France d'en bas, je choisis la France d'en bas.
Non, tu
non c'est du hasard. C'est du hasard, il faut tirer au sort.
Oh là là, j'aime pas... Ça, c'est, tu vois, c'est un vote à l'envers. Tu retires le bulletin.
Ah oui. Ouais, c'est ça.
Ça s'appelle un débourrage d'urne. Et Alissa adore.
Alors, oh là là. En vertu de pouvoirs qui ne m'ont jamais été conférés.
Mais si.
Ah, regardez. Non, mais il n'y a pas de triche. Regardez. Non.
La France en bas. Bon, alors c'est toi, Philippe Besson, qui remportera éventuellement le prix France d'en haut, si jamais tu gagnes. Tu repartiras retrouver Justin Bieber afin de devenir son entraîneur de Free Fight.
J'en ai de la chance.
Figure-toi. Je vais parler français un peu, non ?
Attends, tu arrêtes de m'interrompre, Marcel, on va pas mais, commencer
mais
l'émission
non, mais
comme
parle
ça.
Mais français, que je comprenne, les gens de ma génération ne comprennent pas tant
ah,
charabia.
Justin
là.
Bieber, bah c'est...
Bah le c'est le Marcel Amon de...
Le Free Fight, c'est un combat où on peut se mettre...
Ah bon, d'accord.
Bon, c'est un chanteur, laisse tomber. Figure-toi que le chanteur de 25 ans, Philippe, pourtant assez freluqué, tu le sais, a osé interpeller Tom Cruise,
ah oui, j'ai vu ça.
L'acteur scientologue et musculeux de Mission Impossible dans un message agressif. L'interprète de Baby, sans doute inspiré, on en parlait par Booba, Caris et le boxeur Marcel Amon, oui. Défie le comédien superstar de 56 ans dans un duel d'arts martiaux mixte. Tom, écrit-il, si tu n'acceptes pas cet affrontement, c'est parce que tu as peur et c'est la honte. L'acteur de Mission Impossible n'a toujours pas réagi, mais toi... Je te sens capable, Philippe, d'aller aider Justine à se doter d'un corps de warrior en vue du combat.
Ouais.
Alors
ouais,
pour
ouais.
toi, Marcel,
oui,
puisque tu joues pour la France d'en bas, si tu remportes ce quiz, oh, tu reporteras avec un cadeau canin, une dotation inestimable, Brandy. La seule chienne au monde dotée de la parole. Oh. Car oui, Brandy, boxeur roux âgé de 6 ans, qui habite Lake O'Lakes, Land O'Lakes, en Floride, parle la preuve.
Donc là, elle parle, donc là, hein, d'accord.
Là, Brandy dit allô, tu l'as très bien compris. Deux problèmes néanmoins. Brandy ne parle que quand elle est sur le dos,
bien sûr.
Ce qui n'est pas pratique. Et surtout, elle ne parle pas toujours dans la même langue. Impossible de savoir ce qu'elle dit. Même Raël, qui a été appelé en renfort, puisqu'il connaît tous les langages extraterrestres, s'est avoué un foutu de traduire « Brandy, mais Brandy, t'attends, Régis, si tu gagnes, on l'applaudit !» Il est heureux, Marcel.
Ah bah
elle t'appelle, elle fait allô, Marcel.
Bien sûr, j'ai compris tout ce qu'elle dit, mais c'est psalmodié quand même, pas mal. Hein.
Elle psalmodie, mais c'est parce qu'elle a trop écouté tes chansons. Et donc, elle essaie de les reproduire.
Oh, le salaud.
Alors, Karl, avant que le match commence entre Philippe Besson et Marcel Hamon, je vais quand même vous parler de l'actualité. Tous les deux sont venus avec leur livre. Marcel Hamon, pour vos 90 ans, vous publiez Les coulisses de ma vie chez Flammarion. C'est écrit en collaboration avec votre fils, Mathias Miramon. Et c'est un témoignage très touchant, très drôle et très sincère. Vous partagez toutes vos expériences de vie, vous nous racontez tout. Vous nous racontez ce qui vous a conduit sous les lumières du music hall et surtout, comment vous avez vécu à l'ombre des spots, comment vous avez vécu en dehors de la scène. Et ça, c'est une partie très émouvante de votre vie.
On a combien de temps là pour que je raconte tout ça?
Vas-y, tu as exactement 45 secondes, tu dois être brillant.
J'aime bien le bandeau qu'a rajouté Flammarion à la couverture. Ils disent 90 ans pour apprendre à vivre. Ah, voilà, c'est la réponse. Elle est lapidaire.
Pas mal.
Ça, c'est moins. Tu as encore droit à 23 secondes.
Lapidaire, ça vient de lapida, la pierre. Ça veut dire que ça peut être gravé. Non, mais je t'expliquerai à la fin.
Tu parles latin également.
Yes, sir.
Ah bah, il faut que tu emmènes Brandy, il n'y a absolument aucun doute. Alors, qu'est-ce qu'il fait, tonton Philippe? Ah, Brandy est là, c'est mignon.
Philippe Besson, vous aussi, vous sortez un nouveau livre, votre nouveau roman autobiographique, Dîner à Montréal. Il est sorti fin mai aux éditions Julia. Et il s'agit, pour les fans de Philippe Besson, de la suite d'un certain Paul Darry Grand, paru en début d'année, et de Arrête avec tes mensonges.
Alors, l'histoire.
Eh bien, 20 ans après une séparation, je retrouve l'être aimé. Vous voyez, c'est comment se passent des retrouvailles amoureuses.
Tu veux dire Marcel Hamon ?
C'est ça. Comment on fait quand on tombe nez à nez avec son ex et qu'est-ce qui se passe ?
Pas du tout, il m'a dit que tu étais pas mal gaulé.
Ah bon ? Absolument, très vert encore. Et voilà, et donc c'est qu'est-ce qu'on a fait de ses amours quand on s'est fait larguer et quand, voilà, qu'est-ce qu'on a fait de sa jeunesse aussi ? C'est une sorte de bilan 20 ans après.
Mais ce qui est terrible, c'est que vous vous retrouvez avec vos conjoints respectifs, vos conjoints actuels.
Absolument, c'est un dîner à quatre dans un dispositif très théâtral, unité de temps, de lieu, d'action.
Mais ça pourrait faire une pièce.
Et ça pourrait faire une pièce, absolument.
Ah, tu y travailles.
J'y travaille un peu.
Ah, voilà.
Quel talent, il est fort.
Bah oui, mais j'ai vu comment tu le racontais, je me suis dit, merde, c'est une pièce.
Attention, Karl, il me faut interrompre le cours normal de cette émission avec une breaking news en chanson.
Avec vous, Ganesh, il ne faut pas craindre le pire, il faut s'y attendre.
Karl, figurez-vous que l'on a retrouvé une chanson à la gloire de Marcel Hamon, chantée par les Charlots.
Incroyable! Vous, si jeune, si inculte, vous connaissez les Charlots.
Tout à fait. J'ai un poster de Marc et Sophie au-dessus de mon lit. C'est parti. Quand on écoute la radio, y'a que du rap et de la techno. Où sont passés nos chanteurs qui faisaient notre bonheur? Les maîtres Gims, les Orelsan, moi je leur donne un bonnet d'âne. Celui qui fait vibrer mon cœur est avec nous pendant une heure. Là il est là, il est là, il est Marcel Hamon, Marcel Hamon, Marcel Hamon,
Marcel Hamon.
Ce gars-là, il fait des vraies chansons, il devrait faire l'Eurovision. Marcel Hamon, Marcel Hamon, Marcel Hamon, il a pas besoin de perruque pour nous chanter des vrais trucs. Voilà donc Karl, c'était l'archive que nous allons déterrer aujourd'hui.
Pour une fois, il ne m'a pas déçu. Merci, on l'applaudit, on enchaîne. Allez,
alors, ce que je vous propose, mes chers tontons, maintenant, c'est de découvrir vos jingles du jour. Oh. Parce que vous allez vous affronter et quand vous serez en tête dans les scores, on entendra votre jingle qui vous représente.
Et bien
alors,
sûr.
Pour vous, Marcel Hamon, aujourd'hui, ça sera ça.
Redoute le pire.
Ah, c'est un extrait du Mexicain que tu as chanté avec Aznavour.
Oui, ça c'est un. Ça, tu vois, ça m'enlève toute envie de rigoler parce que je pense que c'est le dernier enregistrement que Charles a fait.
Oh.
Mais oui, il est venu.
Alors tu nous casses le moral.
Ben oui.
Bravo,
mais enfin...
Marcel Hamon. Moi qui croyais que tu étais le prince du rire.
Oh, le prince sans rire.
Excellent. Et le son de Besson, c'est quoi?
Philippe Besson, pour vous, quand vous serez en tête, on entendra ça.
Je reviendrai à Montréal.
Ah, c'est un clin d'œil au livre.
Bah, le livre s'appelle Dîner à Montréal.
Oh, vendeuse, Anissa, vendeuse.
On sait tout ça en fait. Hein.
Europe 1. Carl Zéro et ses tontons flingueurs font le tour de l'actu jusqu'à 18h sur Europe 1.
Alors vous avez tous les deux, mes chers tontons, des vies très riches. Il vous est arrivé tant de choses que vous couchez vos histoires sur le papier. Mais je voudrais en savoir plus sur vos vies et toutes les anecdotes qui vont avec. Alors, je vais vous faire une interview plus ou moins qui aurait pu s'appeler le pire et le meilleur ou le mieux et le moins bien. Mais vous me connaissez, j'ai fait très court comme dans ce lancement. Ce sera donc l'interview le plus, le moins. On se concentre, on commence par toi, tonton Marcel.
Oui.
Ta plus belle rencontre.
Oh ben, hormis les rencontres intimes, familiales, ma plus belle rencontre dans le métier, c'est indiscutablement Georges Brassens.
Ah bon ?
Ben oui.
Parce qu'il t'a filé une chanson.
Non, parce qu'on était copains, et il m'a filé une chanson parce qu'on était copains. Amis même. Bon, on se voyait beaucoup, il venait chez moi, je venais chez lui. C'est un bonhomme. Tout le monde est à même de juger de la qualité de ses textes, de ses chansons. Il n'y a qu'à acheter les disques. Mais le type, l'homme, Georges Brassens,
humainement,
était à l'égal de son œuvre.
C'était formidable.
Oui. Parfois incompris parce qu'il poussait très loin le sens de la philanthropie.
Ouais.
Il a pu choquer parfois des gens en disant des choses, en mettant dans le même panier des tas de gens qui n'avaient rien à voir, me semble-t-il. Mais enfin, c'était un saint laïc. Allez, n'ayons pas peur des mots.
Un saint laïc. Philippe, quelle est la chanson, on passe au moins, que tu détestes le plus ?
Oh la vache, la chanson que je déteste le plus.
Oui, hein. Celle, tu sais, elle passe à la radio. Tu emboutis une autre voiture.
Rien que ça.
C'est l'espèce de truc là pour enfants qu'on a eu à un moment qui était numéro un, toujours des ventes. Là, je sais pas quoi.
Ah bah il y en a eu plein.
La danse des canards.
Non.
Le
un truc des années.
René Lataupe.
René Lataupe.
C'est Canège qui l'a chanté. Son seul succès. René
si
Lataupe.
Seulement.
Marcel, on passe au plus. Ton meilleur souvenir, je le connais ton meilleur souvenir, c'est ton rendez-vous secret à l'Élysée avec Mitterrand.
Oh, il n'avait rien de secret. Il y avait là Michel Fugain, il y avait deux ou trois personnes. Oui, j'ai été sensible. Peut-être mon rendez-vous avec... Tu vas dire décidément, je suis morbide, mais j'ai été admis quand même à aller m'incliner devant sa dépouille.
Ah, tu veux dire de Mitterrand ?
Ça, c'est un rendez-vous posthume quand même qui a une valeur... incommensurable.
Non, mais Mitterrand, ce qui est extraordinaire, c'est que tu trouvais que tu passais plus à la télé, à la radio. Au début, tu avais un peu le creux de la vague dans les années 80. Tu fais ni une ni deux, tu vas voir tonton pour lui dire tonton, je passe plus à la télé.
Mais pas comme ça, non. ni en ces termes, ni de cette façon-là.
Mais lui, mais très sympa, très intéressé, il prend des notes.
J'avais un rendez-vous
tout.
Avec lui et il me dit bon, on vous voit plus beaucoup. Ce à quoi j'apporte la réponse adéquate. Et. Il me dit, bon, bah, écoutez, je pars en Chine, là, venez me voir dès le retour, on va un petit peu arranger ça. Bon.
Ouais.
Et je me suis dit, quoi, cet homme, il a affaire au terrorisme. C'était l'époque où ça commençait sous d'autres couleurs, le terrorisme.
Ouais.
C'était, bon. Ensuite, il va en Chine pour s'occuper des affaires de la France. Et moi, je vais dire, tonton, voilà, on me fait bobo, on n'est pas gentil avec moi. J'y suis pas allé.
T'es pas retourné ?
Non, je suis pas
retourné. Mais t'es un pur malade, Marcel !
Je suis un con, monsieur.
Alors, Philippe, ton plus gros fou rire avec Laurence Parisot, tu as été son bras droit, la première femme big boss du MEDEF.
Oui, absolument. Mais c'était assez bizarre, c'était dans un aéroport aux États-Unis.
Ouais.
Tout simplement parce qu'il y avait une espèce de dame assez charnue, avec des cheveux blancs et assez âgée, qui ressemblait à Barbara Bush. Non, à Barbara Bush. Je me suis dit, tiens, c'est drôle, Barbara Bush, ils l'ont recasée dans un aéroport à Cincinnati. Et en fait, c'était complètement idiot, mais on sortait 10 heures de vol. Et donc, on a commencé à fou rire, qu'on n'a pas pu arrêter. Donc, on s'est assis et écroulé par terre dans l'aéroport. Les gens nous regardaient en disant décidément ces Français sont débiles, mais voilà.
Anissa, est-ce qu'on peut faire un bilan à l'issue de cette première partie ?
Bah, nos deux tontons pour cette première manche ont été extrêmement honnêtes. Il y a donc une égalité entre Philippe Besson et Marcel Amon.
On les applaudit.
Ça c'est pour vous, Philippe Besson.
Il a des frissons. Il a des frissons.
C'est atroce.
Envoyez Brandy à la place.
Europe 1. Tous les jours, sur Europe 1, à partir de 16h, Carl Zéro est entouré de ses tontons flingueurs pour jouer avec l'actu.
Alors, mon cher tonton Philippe, je le rappelle, parce que tu m'as filé un petit chèque avant, ton nouveau roman s'intitule « Dîner à Montréal ». Alors, faute évidemment pour nos amis auditeurs de pouvoir le dévorer immédiatement, nous allons jouer à un jeu génial. Nos tontons auditeurs se demandent sans doute qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir manger ce soir. Je vous propose de jouer à un quiz consacré au repas célèbre de la littérature. Marcel connaît la littérature, il a cité Paul Valéry tout à l'heure, du cinéma, de la chanson. C'est le quiz, le dîner est servi. Ah, on fait du mal à Brandy en régie, visiblement. C'est pas bien. Alors, extrait de film, chanson, roman. À vous de me dire à quel repas célèbre ils font référence. Vous avez de l'appétit, tant mieux. On commence par du copieux. Ça, c'était dans quoi ?
Où sont les poulards ? J'ai faim ! Où sont les fèvres ? Les pâtés de serre ? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit !
Voilà. Les visiteurs.
Les visiteurs ?
Non.
Les visiteurs ! Ah, bonne réponse ! Marcel, tu n'as pas vu Les visiteurs.
Non, mais depuis la scène, tu sais, tous les repas qui ont pu avoir lieu me laissent indifférent.
Ah, pas mal. Décidément, tu t'es converti, Marcel. Après le saint laïc Georges Brassens, la scène. Alors continuons malgré tout. Qui chante « Je ne veux pas y aller à ce dîner »« Je n'ai pas le moral, je suis fatigué »
Ah, Benabar. Benabar.
On écoute.
« Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué. Ils nous en voudront pas. » Allez, on y va pas.
Il a raison, l'écrivain. Je partage l'avis de l'écrivain.
Tu veux pas aller au dîner non plus ?
Non, j'aime beaucoup ce garçon.
C'est Benabar, oui, le dîner. Bonne réponse de Philippe Besson.
Je sens que Philippe va cartonner là. Je sens que Philippe va cartonner.
C'est de la chance pour l'instant. Non, c'est de la chance.
Si, pourquoi tu m'interroges jamais sur Rina Kitty, toi ?
Est-ce que. Alors, une question pour Marcel Hamon. Moi et quatre auditeurs. Est-ce que Rina Ketty a eu une idylle avec Reda Kerr ?
Non, parce que Reda... Il était à Montréal, Reda Kerr.
Très bien. Le suivant, Anissa.
Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin a combré, parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe. Quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul.
De quel
Marcel,
roman
je laisse.
C'est tonton Marcel.
C'est tonton Marcel.
Tonton Marcel,
Marcel.
Proust. Mais j'ai un indice. Ok, alors attention, on bâillonne Marcel. De quelle comédie cette scène de petit déjeuner est-elle extraite ?
Commençons à le viriliser un petit peu, ce cher oncle. On essaie, hein ? Il faut que tu apprennes comment un homme doit tenir une biscotte dans la main. La biscotte doit se tenir virilement. Prends une autre biscotte.
Je n'y arriverai jamais, jamais, jamais.
Poiré, zéro, bien entendu. Je te signale, on bâillonne Marcel en Bordeaux, Marcel. Hein. Mais enfin, tu fais comme tu veux.
Oh, c'est d'une finesse. Mais il est étincelant, on m'avait dit que tu étais en grande forme, c'est vrai. Hein.
Ah, mais c'est qu'il faut avoir fait des études poussées pour arriver à suivre la conversation.
Ah, évidemment, le petit voleur de mobilette que je suis n'est pas au niveau.
Oui, alors, dans la cage aux folles, évidemment.
Bah, bravo, un point Marcel. Chacun. De quel film cette scène se passant à table est-elle extraite ?
À votre avis, combien de temps avons-nous pour souper dans le calme ?
Très peu de temps. Je ne contrôle plus que mes agents qui risquent d'être débordés à tout instant. Nous devons redouter l'émeute. Croyez-moi, ils feront pas le détail.
Philippe, je crois que tu as la réponse.
Le souper, Talleyrand et Fouché, Claude Brasseur, Claude Rich. Magnifique. La nuit où le roi revient à Paris.
Alors, c'est pas la nuit de Varennes.
Non, c'est la nuit où justement on attend que le roi
revienne
à Paris.
C'est la nuit de Juvisy.
L'empereur s'en va, voilà.
Ok, bonne réponse. Ouais. Bonne réponse.
Tu auras remarqué que j'ai laissé quand même par élégance.
Bien sûr.
J'ai laissé répondre.
Bien sûr.
Mais enfin, en réalité, je ne le savais pas.
Et tonton Philippe, puisque tu as gagné, tu ne vas pas nous contredire. Un repas sans dessert, c'est comme une journée sans soleil. D'où ça vient, ça ?
C'est le dessert que sert l'abominable homme des neiges à l'abominable enfant teenage, un amour de dessert.
C'est Lio, Banana Split. Bon.
Oui, Alors, Rina Ketty. Hein. Il y a deux choses dont je suis sûr, c'est Rina Ketty, oui, et 1515 Marignan.
Non. Tu sais autre chose. De quelle vedette de la chanson Calamistrée, Mireille Balin était-elle la maîtresse?
Mais de Tino.
Bonne réponse, Tino Rossi. Tu vois, on peut évoquer des trucs tous les deux.
Non, mais c'est une question d'époque. Tout ça est une question d'époque.
Bah, bien sûr, bien
et
sûr.
Et voilà.
Tu as su traverser les époques.
Et l'époque à laquelle tu t'intéresses particulièrement ne présente pas beaucoup d'intérêt. Je le dis sans parti pris aucun.
Bien sûr. Poilonné. Tu parles de la nôtre ou de celle de Mireille Balin?
Et ta sœur.
Ok, alors je vais me tourner vers Anissa pour un bilan. Suis maltraité, harcèlement moral de la part de Marcel Amon. Ça peut chercher très loin.
Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'au tableau d'affichage, ça a été serré pendant toute la partie, mais c'est Philippe Besson qui prend l'avantage sur cette manche.
Je reviendrai à Montréal.
Europe 1. De l'actu, des quiz, des anecdotes et beaucoup de bonne humeur. C'est le programme tous les jours et même le week-end à partir de 16h sur Europe 1 avec Carl Zéro et ses tontons flingueurs.
Alors mes chers tontons, enfin chers, pas toi Marcel, juste chers tontons et Marcel, en fouillant dans vos bios respectifs toute la nuit, je vous ai trouvé des points communs. Tonton Marcel, tu es né à Bordeaux. Philippe, tu as étudié à Bordeaux. Deuxième point commun, Marcel, tu as failli être instituteur et Philippe, tu es fils d'instituteur. Il y en a certainement énormément d'autres, mais la nuit s'achevant, je n'ai pas eu le temps de les chercher tous. Mais j'ai tout de suite pensé à ce quiz des points communs.
Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi.
Jean-Jacques Goldman, tu connais Jean-Jacques Goldman?
Ah ben quand même, oui. Oh
bon, tu m'as fait peur.
Moi, il y en a deux sur lesquels je suis incollable, c'est Jean-Jacques Goldman et Rina Ketty.
Est-ce que tu sais qu'ils ont été ensemble?
Oui, mais bien sûr, ils ont eu un enfant.
Oui, je sais. Et comment s'appelle-t-il?
Georges Brassens.
Alors, cher tonton flagueur, on se concentre. Quel est le point commun entre M. Pokora et Julio Iglesias? Attention.
Ils voulaient tous les deux être footballeurs.
Ils voulaient tous les deux être cuisiniers.
Ils voulaient tous les deux être ensemble.
M. Pokora,
footballeur
Julio,
sans doute,
Iglesias.
Parce que M. Pokora, je crois qu'il a voulu être footballeur, non, dans l'Est, non?
J'ai pas le droit de te lire pour l'instant, j'attends la réponse de Marcel.
Ma réponse, je suis obnubilé par le football féminin en ce moment. Ne me posez pas de questions en dehors de cette.
Eh bien, ils voulaient tous les deux, bonne réponse de Philippe et donc aussi de Marcel, être footballeur. Quel est le point commun entre Cameron Diaz et Snoop Dogg, que tu adores, Marcel?
Ils ont habité dans le même immeuble en même temps.
Ils ont été dans le même lycée en même temps.
La coupe de cheveux, c'est évident.
Même immeuble, allez, vas-y, va.
Ouais, Philippe. Moi je dirais même lycée, parce qu'ils sont de la même génération. Non mais, ouais, même lycée.
Eh bien, désolé mon cher Marcel, ils ont été, comme l'a dit Philippe, dans le même lycée en même temps. Et Cameron Diaz a avoué qu'elle lui avait acheté de l'herbe.
Elle a bien fait, c'est ce qu'ils faisaient de mieux en vendant, oui.
Alors, Amérique toujours, quel est le point commun entre Leonardo DiCaprio et Sandra Bullock?
Leurs mères respectives sont allemandes.
Leurs pères respectifs sont italiens.
Ou ils sont tous les deux des hommes.
Eh bien, je pense que c'est celui des deux qui est capable de réciter Erl König dans le texte, qui est d'origine allemande, n'est-ce pas? C'est pour te perdre.
C'est une réponse cryptique.
Voilà.
Comme c'est... tu les aimes.
Exactement. C'est-à-dire,
tu n'es pas venu avec ton petit décodeur personnel.
Mais non, mais parce que tu veux. Quand je ne sais pas quoi répondre, il faut que j'en rajoute, que j'en rajoute, que j'en rajoute.
D'accord. Je me tourne vers Philippe qui, lui, a compris les règles du jeu.
Non, mais. L'Allemagne, ça va être ça le point commun, non? L'Allemagne.
Bonne réponse. Leurs mères respectives sont allemandes. Mais pour brouiller les pistes, ils portent le nom de leur père. Quel est le point commun entre Catherine Deneuve et Emma Watson?
Oula.
Elles sont toutes les deux nées à Paris.
Elles sont toutes les deux nées à Londres.
Ou alors elles ont le même âge.
Emma Watson joue Hermione dans Harry Potter. Je dis ça pour toi.
Écoute, par politesse, par galanterie, je dirais le numéro 1. Je dirais...
Elles sont nées à Paris.
Parce qu'on est à Paris. Voilà. Elles sont nées à Paris. Je dirais ça comme ça, hein.
Tonton Besson.
Alors comment, par politesse, je dirais qu'elles ont le même âge.
C'était trop poli et c'est Marcel qui a gagné. Elles sont toutes les deux nées à Paris.
Un point commun entre Céline Dion, Madonna, Élise Lucet, Monica Bellucci et Nicole Kidman.
Elles ont été mamans après 40 ans.
Elles ont été mamans après 50 ans.
Ou alors elles étaient toutes en vacances à la Grande Motte l'an dernier.
Oui, maman après 40 ans.
Oui, Philippe, je dirais comme vous.
Ouais.
Bonne réponse des deux tontons, bravo. Roue dans roue, les tontons. Anissa, quel est le bilan sur cette manche ?
Eh bien, sur cette manche, nous avons une égalité entre Philippe Besson et Marcel Hamon. Europe 1. Dès 16h, tous les jours, du lundi au dimanche, sur Europe 1, Carl Zéro et ses tontons flingueurs s'amusent avec l'actu.
Dans un éclair de génie ou de lucidité, Tonton Marcel a déclaré « C'est plus difficile de rester simple quand on est Paul McCartney que quand on est pharmacien à Villeneuve-sur-Lot. » Mais moi, je ne suis pas d'accord. C'est facile de rester simple et de ne pas prendre la grosse tête, même quand on est à la radio. Regarde les gueux qui m'entourent, les sans dents. Eh bien, ils ont le melon.
Chers auditeurs, chers compatriotes, veuillez nous excuser pour l'interruption volontaire de votre programme préféré en raison d'un mouvement de grève éclair, mais peu surprenant, des équipes du tyran Carl Zéro.
Oh mais non, je déconne, je m'excuse. Rallumez les micros, je vous aime beaucoup. Marcel, Philippe, retour au jeu. Je vais vous raconter des anecdotes de stars qui ont eu du mal à rester simples. À vous de me dire si c'est vrai ou faux. C'est le quiz coulisses du showbiz. Alors attention, première affirmation, Madonna est tellement obnubilée par l'hygiène qu'elle exige que toutes les toilettes qu'elle serait susceptible d'utiliser partout, en toutes circonstances, disposent d'une lunette toute neuve. Vrai ou faux ? La lunette des toilettes, Marcel.
Je savais qu'elle faisait de l'astronomie, mais je ne savais pas...
Vrai ou faux, alors ?
Pourquoi pas vraisemblable, pourquoi pas ?
Oui, vraisemblable, donc
bonne
vrai.
Bonne réponse, c'est vrai. Maria Carey a un assistant dont la tâche principale est d'être à côté d'elle quand elle a envie de cracher son chewing-gum.
C'est génial, ce job.
Vrai ou faux ?
C'est pas possible.
Elle est cinglée, Maria. C'est quand même une diva. Il y a quelqu'un qui l'habille, qui la maquille, qui la soupèse. Mais enfin, ça fait beaucoup, quand même, chewing-gum.
Ça fait un peu trop, peut-être.
Oui.
Quand même.
Rien n'est trop pour Maria, c'est vrai.
Oh la vache.
Car les prendre en main, ces petits chewing-gums, pour les jeter elle-même, la dégoûte.
Ah oui,
donc c'est à son ami Sandro de le faire.
Mais c'est pas possible.
Mais
pas
je te jure, c'est ça des stars, Marcel. Une année, lors de la fête du jambon de Bazoncourt en Moselle, Bruce Willis, qui était invité d'honneur, a exigé qu'on privatise un garage Citroën pour faire réparer sa Xantia diesel. Vrai ou faux ?
Oui, ça encore, il peut y avoir un aspect logique, le manque de confiance dans la technique française. Tu sais comment ils nous appellent les gens du spectacle, les Américains ?
Non.
The joke business. Alors pourquoi pas le joke mécanicien, j'en sais rien, pourquoi pas ouais.
Je vois pas Bruce Willis avec une Xantia, moi, mais je me trompais. Mais...
C'est vrai que c'était un indice, oui. Et c'est faux, effectivement. Il n'a pas de Xantia diesel, c'est Bruce Willis.
Vous ne dites pas tout.
Mais voilà.
Martin Scorsese ne veut qu'une chose, que pendant la projection des Rush, le fauteuil à sa droite soit toujours laissé libre pour son chien Brandy.
Ouais, pourquoi pas.
Non, mais non, Brandy, à mon avis, c'est pour nous induire là aussi en erreur. Non, 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 c'est faux.
Le chien ne s'appelle pas Brandy, mais c'est vrai.
Ah.
Encore un point qui vous est passé sous le nez.
Mais est-ce que ce chien téléphone ?
Ce non. Chien téléphone, nous l'avons en ligne. Allô, Brandy ?
Allô ?
Oui, bonjour. Ça va, mon petit chéri ?
Allô ?
Oui, je suis là. Et je te retrouve juste après, car il ne t'emportera pas.
Allô ?
Non, mais stop !
La loge de Beyoncé doit être maintenue à 25 degrés précisément. Elle exige 4 serviettes blanches neuves. Et pour se désaltérer, uniquement du Pepsi. Mais attention aussi, 6 bouteilles d'eau, 3 froides et 3 à température.
Oui, ça c'est sûrement vrai.
Pourquoi pas ? Ça me paraît évidemment complètement démesuré. Mais
c'est vrai, pour toi c'est
pas.
Vrai.
Pourquoi pas ?
Bonne réponse des deux tontons, la dernière.
La loge de Marie-Ange Nardi doit être maintenue à 4 degrés précisément. Elle exige 4 micro-serviettes rouges et pour se désaltérer, n'importe quoi du moment que ça fait 40 degrés. Whisky, gin, vodka.
Non, on embrasse Mariana. Non, c'est faux.
Non, moi ce que je voulais te dire, c'est que l'eau que tu me sers là, elle n'est pas très fraîche.
C'est du gin. Depuis le début de l'émission, et tu t'en es pas rendu compte, le bilan Anissa de cette 5e, 4e manche, je ne sais plus.
C'est la 5e manche et c'est un match très serré puisque cette fois-ci c'est Marcel Hamon qui est en tête face à Philippe Besson.
Vous ne comptez pas les points, je le sais.
Est-ce que je peux fêter ça à ma façon ?
Vas-y.
Des tontons flingueurs, Carl Zéro, de l'actu, des jeux et de la bonne humeur, c'est votre programme, même le week-end, sur Europe 1 à partir de 16h.
Comme c'est la dernière manche, tonton Marcel, bien que tu aies été odieux au cours de cette émission à mon égard...
Non, mais c'était volontaire. Hein.
Ah, non, mais
c'était tout à fait... Ça ne m'a pas échappé.
Je te remercie et en même temps, je te pardonne, car figure-toi que moi, je suis fan de ton répertoire. Ah. Et s'il y a un morceau que j'aime à me repasser à fond les ballons, quand je suis seul, le soir isolé dans ma célèbre grotte, c'est celui-là.
Le bleu, le ciel de Provence, blanc.
Ce haut tube en couleur. Notre blind test du jour va être consacré aux chansons avec des couleurs dedans, Marcel.
Ah, regarde-moi cette couleur. C'est ni jaune citron, ni jaune safran. C'est jaune morlingue, jaune blé, quoi. Van Gogh aurait vu ça, il en aurait fait un chef-d'œuvre.
Oh ! Ça n'est pas de la peinture, c'est du tube. Je veux dire, le titre, l'interprète que vous devez me trouver, attention.
Oh ben, on reconnaît la patte d'Audiard. Il doit y avoir la Gabin et je ne sais qui.
Mais là, oui. C'était juste le jingle,
c'était
Marcel.
C'était le jingle, Marcel.
Je ne devais pas répondre.
Non, pas tout de suite, en fait. Mais c'est pas grave, regarde, écoute ça.
Rien à qui dit.
C'est du bon son.
Je m'en irai dormir dans le paradis blanc.
Paradis blanc.
Paradis blanc.
Oui.
Qui chante ?
Michel Berger.
Bravo, Philippe Besson.
Vous avez pleinement raison, messieurs.
Alors, je fais quoi là, Anissa ? Un point chacun ou...
Non, moi je le mérite pas là, je le mérite pas.
Bon. Deuxième chanson colorée très célèbre.
Ben, les mots bleus. Christophe.
C'est Philippe Besson qui l'a eu.
Oui, je sais. Non, je regarde les yeux.
Non, j'aurais pu le dire parce que je m'honore d'avoir vu pour fêter mes 90 ans, d'avoir eu dans la salle. Des gens dont j'ignorais qu'ils fussent des admirateurs. Christophe, entre
autres. Incroyable, salut, génial.
Oui, je suis très content. Mais je le dis alors là sans ricaner. Je le dis très sincèrement.
C'est la seule chose sincère que tu as dit en une heure.
Il fallait attendre.
Ok, on enchaîne. Alors attention. Qui ça peut être,
c'est
ça ?
C'est Les Innocents.
Les Innocents. Ah, oui, d'accord. Et le titre de la chanson ?
Il est fort. Ah, je sais pas. Non, là, ah, là je suis largué. Là, je
tu es
largué.
Largué. Non, la suivante, je suis largué. La suivante, tu vas la reconnaître.
Ah, Jeanne Mas, toute ma jeunesse.
Oui.
Toute ma jeunesse.
Oui, alors que c'est les 80 ans de...
Quel est le gamin qui a 80 ans ?
C'est Marcel Hamon quand il a découvert Jeanne Mas en 72.
Ah, j'aimais beaucoup. Qu'est-ce qu'elle devient ? J'aimais beaucoup ce que faisait
cette... Elle vient d'Arizona.
Elle vient d'Arizona avec un chien qui s'appelle Brandy. Oui, Brandy, papa va arriver. Attends dans la voiture sagement. Il est en plein soleil, le pauvre. Est-ce que vous vous souvenez de lui ? Il était génial.
Elle dit bleu et le ciel est tout bleu. Elle dit elle rose et je suis amoureux.
Mais je connais pas les titres, c'est Claude François à l'évidence.
Ah non, c'est le mec qu'on voyait dans L'île aux enfants. Non, ouais. Le truc avait plein de d'instruments, c'est pas ça ?
Ouais.
Ah oui, tu appelles ça des instruments.
Non mais il jouait plein de trucs à la fois, non ? Bricard, non.
Rémi Bricard, l'homme orchestre, elle dit bleu, elle dit rose.
Oui, non, mais je vous regarde avec, je vous écoute avec admiration.
Intérêt.
Avec intérêt, ben non, étant donné que... Mais bon, mais avec admiration, oui.
Oui. Alors, la suivante.
Étienne, Dao.
putain, mais t'es trop chic, toi. Tu dis le prénom. T'es le futur Michel Drucker. Au lieu de dire Étienne Dao, tu dis Étienne. Au lieu de dire les innocents, tu dis les.
Donc, si on fait un bilan, j'ai donc zéro, c'est ça.
Si je t'en ai donné un sur Mayol, histoire que t'en aies quand même un.
Non, mais quand je dis j'ai zéro, c'est un petit jeu amusant.
Ah,
je
Alors on est deux.
Et Flagorneur.
Tu as raison, toujours en espoir d'emmener la chienne. Le suivant.
Ça, c'est les inconnus.
Ah oui, les inconnus.
C'est les.
Enfin, j'ai marqué un point.
Les incos. Bravo, Marcella.
Bravo à moi.
Et le dernier, normalement, Marcel, tu vas le reconnaître.
Mais il s'en allait temps que ce soit le dernier. Ah bah oui. D'ailleurs, il y a une histoire à cette chanson. C'est tout le contraire d'une chanson cocardière, bleu, blanc, rouge des frites, parce qu'il dit bleu comme le bleu, la belle bleue du feu d'artifice, rouge comme le rouge de l'accordéon, etc. Ça n'a rien de cocardière. On dit, oh bah oui, il ne sait plus quoi faire maintenant, il chante le tricolorisme.
Mais qui c'est qui chante ça?
Ben c'est ma pomme.
Je note que Philippe ne l'a pas reconnu. Tu aurais pu crier Marcel
Amont.
Non, mais il n'en pensait pas moins. Hein.
Il t'adore.
On dit généralement que c'est un homme de talent et de goût.
Mais bien sûr. Anissa, est-ce que Marcel va repartir avec Brandy?
Alors, ce que je peux vous dire...
c'est horrible.
Sur cette manche, c'est Philippe Besson qui a gagné. Mais sur l'ensemble du match... Pour les points marqués, pour l'humour et pour Brandy, c'est Marcel Amont qui l'a remporté. Mon Carl avant qu'on se sépare, je vous rappelle que pour fêter la victoire de Marcel Amont, vous pouvez le lire, Les coulisses de ma vie, c'est paru chez Flammarion. C'est écrit en collaboration avec votre fils Marcel, Mathias Miramont. Un témoignage très touchant de votre vie. Vous nous racontez même ce qui s'est passé à l'ombre de la scène. Et vous, Philippe Besson, votre dernier livre, c'est Dîner à Montréal. Il est paru fin mai aux éditions Julliard. Et c'est la suite d'un certain Paul Darry Grand et d'Arrête avec tes mensonges. Très bon livre.
Il me reste à remercier nos tontons flingueurs et vous les applaudissez car ils ont été absolument dithyrambiques aujourd'hui. Merci beaucoup.
Tous les week-ends de 16h à 18h sur Europe 1, vous écoutez Carl Zéro et c'est Tonton Flingueur. La suite, c'est juste après les infos de 17h.
16h, 18h, Carl Zéro sur Europe 1.
Oh, mais c'est pas vrai.
Ça fait quand même une surprise, non?
Carl Zéro nous donne rendez-vous tous les jours sur Europe 1 de 16h à 17h et même le week-end en rediffusion pour un vrai faux quiz autour de l'info, de la politique, mais pas que. Allez, place à un nouveau match.
Europe 1.
Mes chers amis, mes bien chers compatriotes, quel plaisir d'être avec vous. Vous avez un point commun. Deux grandes reporters qui sont venus m'entourer admirablement aujourd'hui. Et ce point commun, c'est l'adrénaline. Car le reportage, c'est une drogue dure et forcément, quand on n'est pas dans l'action, sur le terrain, en pleine investigation ou sous les bombes, on ressent un manque. Sauf ici, évidemment, sur Europe numéro 1. Car pour jouer aux tataflingueuses, il faut la même dose d'adrénaline et de culot. Une hola pour mes deux Rouletabille, Anne Niva et Martine Laroche.
Alors, vous êtes ici, mes chers tatas, pour répondre à toutes sortes de questions de la première importance, afin de nous aider à réduire la fracture sociale. Parce
oui,
que
c'est essentiellement des questions débiles.
D'accord. C'est notre objectif chaque jour. Pour cela, l'une d'entre vous représentera la France d'en haut et l'autre... cette imparable France d'en bas, afin de les avoir réconciliés en fin d'émission.
En même temps, rassurez-vous, si vous n'y parvenez pas, pas d'angoisse. Personne ne vous en voudra, puisque personne n'a réussi. Regardez, Chirac, il n'y est pas parvenu. Et aujourd'hui, tout le monde l'aime quand même. Place à Nissa au tirage au sort.
Oui, c'est Martine Laroche-Joubert qui va procéder au tirage au sort et décider de son sort. Voilà.
Alors, France d'en haut ou France d'en bas ?
France d'en haut.
France d'en haut, pour toi Martine.
Ah bah c'est bien.
Est-ce un bon choix? Pour toi, France d'en bas, Anne Niva. Alors, Martine, puisque tu représentes la France d'en haut, si
mais
tu triomphes...
Mais qu'est-ce que ça veut dire, la France d'en haut?
Tu vas voir. C'est pas le même lot, en fait. Il y a deux lots différents, suivant que tu sois France d'en haut ou France d'en bas. Si tu triomphes à l'issue même, de ce jeu que je sens palpitant, tu iras dormir, Martine, chez un confrère... Antoine de Maximy. Et oui, tu ne rêves pas, le célèbre globe squatter en chemise rouge, présentateur de l'émission culte J'irai dormir chez vous, dont tu entends le générique en ce moment, t'invite à passer la nuit avec lui, en tout bien tout honneur, enfin normalement.
Mais où ça ?
Eh bien chez lui. Il a lancé une campagne de crowdfunding pour financer son premier long métrage de fiction intitulé « J'irai mourir dans les Carpates ». Et il a déjà collecté 115 000 euros. 10 contributeurs seront tirés au sort pour aller dormir chez l'animateur. Tu seras la 11e. Martine, et on t'applaudit. Une réaction ? Tant de bonheur d'un seul coup, ça doit faire drôle, non ?
Dormir dans les Carpates, non, j'ai pas tellement envie.
Mais il ne vit pas dans les Carpates.
Du côté de Dracula, tout ça, non.
Bah, il a un petit gars avec sa chemise rouge, Maximi, un petit... Tu l'aimes bien, ce Maximi, d'ailleurs ?
Je préférerais, je sais pas, en Asie, en Amérique du Sud.
Ah, je croyais un nazi. Eh bien, nous avons le docteur Mengele en ligne. Merci, Martine. Alors toi, tu joues pour la France dans Batata Anniva.
Oui,
alors ton cadeau, évidemment, est moins glamour. Si tu gagnes ce quiz, tu partiras à Ferrières-la-Grande pour rejoindre 6 résidents de l'EHPAD La Pierre Bleue.
Bah, tu sais, c'est à peu près ce que je fais tout le temps.
Ah bon ?
Ça ne me changera pas de mon quotidien.
Eh bien, les résidents répètent depuis plusieurs semaines pour participer à un prestigieux Danse avec les stars local. Ils sont âgés de 65 à 103 ans, valides ou en fauteuil, et guidés par les soignants et même par le cuisinier, ils s'apprêtent à danser le tango, le rock ou la valse. Alors avec son chapeau de paille sur la tête et son boa rouge autour du cou, André. André E, 98 ans, par grande favorite. Elle lève déjà un bras en rythme et attend... Attends qui ? Attends Anniva pour former le binôme pour danser. Et elle a choisi bien entendu le tube de Jeanne Calment, la farandole.
Oh là là.
Ah, tu savais que Jeanne Calment, avant de nous quitter,
avait fait un tube ?
Oui. La farandole.
Elle a fait un album entier.
Un album, on vous le remet.
Ouais. La farandole.
Oh, ça, c'est bon. C'est bon, la farandole.
Alors, Karl, avant que le match ne commence entre nos deux grandes reporters aujourd'hui, je vous parle de leur activité et de leur actualité. Anniva, vous êtes grand reporter, reporter de guerre, prix Albert Londres en 2000. Anniva, vous êtes à la tête du magazine Dans quelle France on vit ? C'est sur RMC Story. Et il ne faut pas manquer le prochain numéro, c'est un inédit, c'est ce soir à 20h55 sur RMC Story. Dans quelle France on vit spécial sexe vers de nouvelles libertés ? En fait, dans ce quatrième numéro, Anniva, vous vous interrogez sur les nouvelles libertés sexuelles et c'est une thématique assez taboue.
Absolument, dans ce nouveau numéro, tu as recueilli, Anne, des témoignages de personnes d'âges différents, de milieux différents... Et ils te racontent leurs petits secrets.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est les grands sujets de société. Et le sexe, c'est un grand sujet de société.
Quel est le rapport entre le reportage de guerre ou le reportage sur des...
Mais pourquoi diantre
poser cette question,
mais c'est vrai. Y aurait-il un rapport ?
Mais je sais pas, est-ce que quand on est reporter de guerre, pendant la guerre, les gens font l'amour ?
Ah oui.
Bah, ils devraient se concentrer sur la guerre.
Et bien justement, au contraire, ils veulent l'oublier.
Ils veulent oublier la guerre.
Mais bien sûr.
Faites l'amour, pas la guerre.
Premièrement, ils veulent l'oublier. Et deuxièmement... Justement, ils font des enfants, parce que souvent, c'est prouvé que les périodes, il y a un taux de natalité qui reprend quelques mois plus tard, parce les gens ont peur de mourir, ont peur que leur peuple disparaisse, etc. Je parle des guerres où j'ai été, les Tchétchènes. Et là, donc, du coup, il y a une hausse de la natalité.
Mais Ganesh est un enfant de la guerre que la France a fait à La Réunion.
C'est très important.
Il y a une trentaine d'années.
Martine Laroche-Joubert, vous avez publié début mai une Femme au front, mémoire d'une reporter de guerre aux éditions du Cherche Midi. Alors dans ce livre, on découvre vos premiers reportages. Vous nous parlez des pygmées de Centrafrique, les deux guerres du Golfe, les printemps arabes, l'éclatement de l'URSS. Vous nous parlez de l'apartheid en Afrique. Vous revenez sur l'élection de Nelson Mandela. Martine Laroche-Joubert, vous revenez sur toutes vos missions, ces missions qui vous ont forgé, mais aussi vous parlez d'erreurs et de regrets dans ce livre.
Et tu livres dans ces reportages ce qu'on ne peut pas quand on filme, quand on tourne montrer, c'est-à-dire ce qu'on voit, mais malheureusement à ce moment-là, il n'y a pas la caméra, ou alors c'est une confidence que quelqu'un te fait, et tu reviens là-dessus aussi.
Oui, par exemple, j'étais dans l'ex-Zaïre, qu'on appelle maintenant le Congo, et qui d'ailleurs s'appelait avant le Congo, et au Zaïre, je me souviens qu'on suivait ce qu'on avait appelé la route de l'enfer, c'est-à-dire qu'il y avait des réfugiés poursuivis par des rebelles qui mouraient de faim autour de nous, et c'est difficile de filmer ce genre de choses, et le caméraman... Roger Motte était à la bonne distance, je le voyais qui filmait comme ça, très, voilà, sans heurter, sans choquer. La caméra, c'est très intrusif, ouais, donc devant des gens qui meurent, il faut faire attention. Et moi, j'étais derrière lui. Et je ne pensais qu'à une seule chose, mais il faut témoigner, quand est-ce que je vais pouvoir monter, envoyer le sujet, tout ça. Et à côté de moi, j'ai vu un photographe qui allait chercher un bébé pour l'amener dans un poste de secours, tout petit, complètement démuni. Et là, je me suis dit, mais ça m'était même pas venu à l'esprit, à moi, de prendre ce bébé et de l'amener dans ce poste de secours. Et là, je me suis dit, bon ben voilà, je suis trop blindée, je suis... voilà, c'est pas bien, je trahis mon métier de journaliste. Il faut se blinder, mais pas trop. Et là, voilà, je raconte ça parce que ça, c'est, ça me reste, c'est comme un remords, c'est comme un regret.
Alors, Karl, ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir les sons de nos tatas flingueuses du jour. Vous allez vous affronter, il va y avoir un match, il va y avoir des points. Et quand l'une de vous deux sera en tête dans les scores, elle aura son jingle pendant toute l'émission, pendant près d'une heure. Alors, pour vos sons, aujourd'hui, nous avons choisi deux ambassadeurs de la paix dans le monde. Pour vous, Anniva, ça sera ça. John Lennon.
Donnons une chance à la paix. Et pour Martine.
Ah bah un autre grand qui a chanté la paix aussi.
C'est bien aussi. Hein.
Et c'est Michael Jackson.
Eh ben ouais, c'est bien Karl.
Non, ça me gêne un peu.
Mais non, mais non.
Et ses tontons flingueurs font le tour de l'actu jusqu'à 18h sur Europe 1.
Alors mes chères tatas flingueuses, je savais que j'avais affaire à deux femmes de poigne, des femmes à poigne, deux journalistes qui n'ont pas froid aux yeux. Et en compulsant vos biographies respectives, j'ai découvert qu'à un moment donné de votre existence, vous avez toutes deux eu maille à partir avec les autorités russes et plus particulièrement le KGB, enfin le FSB. Toi, Tata Martine, c'était parce que tu t'étais fait passer pour une employée de la SNCF.
Exactement. Je voulais faire un sujet sur les refouzniks, c'est-à-dire ces juifs qui, du temps de l'URSS, donc, voulaient aller en Israël. Et quand ils demandaient leur visa de sortie, ils perdaient automatiquement leur travail. Et à ce moment-là, c'était interdit de ne pas avoir de travail en URSS, donc ils acceptaient n'importe quel emploi. Donc évidemment, pour faire ce genre de sujet, impossible d'avoir un visa officiel. Donc j'ai pris comme profession employée de la SNCF. Je me suis inscrite dans un groupe d'amitié France-URSS. Et je suis donc partie avec comme ça, plusieurs Françaises, touristes, et nous avons retrouvé à Leningrad, puisque c'était l'ancien nom de Saint-Pétersbourg. Et voilà, et c'était assez compliqué parce qu'il fallait évidemment que nous tournions ces refusniks. Et on les tournait. On disait, oh non, allez voir l'Ermitage. Non, non, ça ne nous intéresse pas, la peinture. On préfère aller se promener dans les rues. Bon, la seule chose qu'il fallait absolument faire, c'est être à l'heure des repas. Enfin bref, on était dans la banlieue de Saint-Pétersbourg. On était dans un camion en train d'interviewer un de ces refouzniks.
Et là
on entend, madame, oh, j'étais en train de sortir du camion. Là, j'étais pétrifiée. On a été arrêtés donc, par la police.
Suivez-nous.
Voilà, exactement. On s'était dit, si jamais on est prise, on aura une phrase standard qui est « Je demandais mon chemin, je veux voir le consul de France ». C'est tout. Une seule phrase. Donc, ils nous ont séparés. J'étais interrogée donc, par des hommes avec un manteau en cuir, tout ça, qui m'ont un peu menacée quand même de sévices physiques. Et à toutes les questions, je répondais « Je demandais mon chemin, nous étions perdus, je veux voir le consul de France ». J'enchaînais ça. C'était encore une époque où ils ne pouvaient pas lire ce qu'on avait fait dans la caméra. Vous voyez, ils nous l'avaient confisqué, mais ils ne pouvaient pas le lire. Et on a répété ça pendant des heures et des heures. Le refouznik, il a répété aussi la même chose. Mais ça a duré très, très longtemps. Finalement, ils ont appelé le consul de France. On a continué à mentir, même aussi, évidemment, devant le consul de France. Notre version, nous étions perdus. On a quand même réussi à rentrer à l'heure du repas. Mais ce qui a été très dur après, c'est de recommencer le reportage. Parce qu'on avait très peur qu'ils aient pu lire les cassettes. Ah. Chaque fois qu'on entendait taper à notre porte, on était terrorisés. Et finalement, on a recommencé le reportage. On est revenu en France. Et dans ce genre de situation, il faut vraiment, au cas où ils liraient les cassettes, suivre ce qui se passe en URSS, voir ce qu'étaient devenus tous ces hommes et toutes ces femmes que nous avions interviewés. Et finalement, 3 ou 4 ans plus tard, ils ont pu partir en Israël. Voilà, il faut toujours faire attention aux gens qu'on laisse derrière soi.
Et toi, Tatane, on t'a carrément prise pour une agent secret. Tu as même disparu pendant une semaine de la circulation.
Oui, ça c'était en Tchétchénie. Je pensais que vous alliez faire allusion à une autre fois, parce qu'il y a eu plein de fois. Mais c'est un peu normal quand on fait ces métiers-là. Donc c'était quand même un drôle de moment où j'étais à 6h du matin, au crépuscule, à l'aube, pardon. Je suis réveillée, hein. À l'aube, dans cette maison, dans un village tchétchène. C'était pendant le ramadan, donc j'étais du côté des femmes, on venait de passer la nuit. Et du côté des hommes, j'entends une espèce de grand brouhaha, puis je vois des mecs arriver avec des kalachnikovs, masqués, tout en noir, sans sigle, sans rien sur leur uniforme. Je me demandais ce que c'était. Et j'avais un problème parce que j'étais arrivée là, bon, c'était en pleine guerre de la Tchétchénie, et j'avais un téléphone satellite avec moi qui était le seul moyen pour appeler ma rédaction, hein, parce qu'on peut être le meilleur journaliste du monde, mais si on n'a pas le moyen de parler avec sa rédaction, eh bien ça sert à rien. Et ce téléphone satellite, il était dans la pièce où ils étaient en train d'arriver, les mecs du FSB. Donc forcément, ça allait attirer leur regard, et ça n'a pas raté. Donc comme j'étais habillée comme une femme tchétchène. Et avant que je me mette à leur parler, ils croyaient que j'étais une femme de la maison tchétchène. Et puis moi, je me suis dit, je vais m'auto-dénoncer. Je me suis dit, c'est super, ça a peut-être marché et tout. J'ai été les voir en leur parlant en russe, en leur disant, je suis Aniva. Je leur ai montré mon passeport français. J'ai dit, je suis journaliste. Ils m'ont pas cru. Ils m'ont pas cru du tout, parce qu'en fait, ils avaient des ordres. Ils étaient tellement perplexes. Eux, en fait, ils venaient pas là pour moi. Ils venaient là pour faire une perquisition, parce que le mec chez qui j'étais, la famille était soupçonnée de tas de choses. Et donc, je les gênais, en fait, en étant ce problème supplémentaire. Alors ensuite, je vous la fais courte, ils sont partis avec le maître de maison qu'ils ont arrêté. Et moi, je suis restée là. Et 24 heures plus tard, ils sont revenus avec des ordres qui étaient des ordres de m'arrêter. Parce que là, quand même, ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient une bonne histoire.
Eh bien, je m'apprêtais à vous faire le quiz James Bond. Mais comme vous avez trop bien répondu, je ne le fais pas.
Europe 1. Tous les jours, sur Europe 1, à partir de 16h, Carl Zéro est entouré de ses tontons flingueurs pour jouer avec l'actu.
Tatane, ton nouveau volet de ce magazine qui s'appelle « Dans quelle France on vit » sur RMC Story et qui sera diffusé ce soir à 20h55 s'appelle « Sexe vers de nouvelles libertés ». Dans ce magazine, tu es parti à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont accepté d'évoquer face caméra et à travers des témoignages sincères et émouvants leur rapport à l'amour mais aussi leur sexualité. J'imagine que tu as dû faire des découvertes étonnantes.
Par exemple, le polyamour.
Ah oui,
j'ai été surprise. J'ai trouvé une petite jeune fille de 23 ans qui est ingénieure agro et qui est très amoureuse d'un jeune garçon qui a son âge, avec qui elle habite à Bourg-la-Reine.
Ah, déjà prédestiné.
Je pensais que ça allait te plaire, ce petit détail. Mais elle est également amoureuse d'un autre.
Non.
Si.
Qui vit à Bourg-la-Reine
pas loin.
Ah,
et en tout cas,
salaud.
Mais les deux garçons sont au courant de l'existence d'un et de l'autre.
Mais du coup, c'est de la polygamie.
Et c'est assumé. Ça s'appelle du polyamour ou amour pluriel. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que je rentre au domicile de cette jeune fille avec son ami qui s'appelle César et que je demande à César s'il se sent bien dans cette configuration.
Oui. Et il dit...
Et en fait, je sens que c'est moyen. Mais en même temps, il fait beaucoup d'efforts pour essayer de plaire à sa copine et pour jouer le jeu. Et puis ensuite, je fais une rencontre face caméra entre les deux garçons.
Oula.
Dans une pizzeria de Bourg-la-Reine.
Oula. Chaud d'ambiance.
Vous voyez, non, mais ce qui est intéressant, c'est la discussion entre eux trois. Cette espèce de déconstruction du couple de ces jeunes gens qui ont moins de 25 ans. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut montrer parce que ça prend une certaine ampleur.
Alors, je vais vous faire un quiz sur les Français et leur sexualité.
Aïe, aïe, aïe.
La première qui trouve la bonne réponse marque un point. Moi, je ne peux que répondre plus ou moins pour vous aider. Jingle. Voilà, c'est le jingle du juste prix.
Tout à fait.
Alors, quel est le pourcentage, mes chers tatas, de Françaises et de Français ayant eu plus de 10 partenaires au cours de leur vie ?
Oh, pas beaucoup. Hein.
8% ?
8% pour Martine.
Martine dit 8. 6%.
6%. Comme c'est Martine qui est le plus proche des 21%.
Ah, quand même, on était quand même un peu
vous vivez en 1942. Je vous félicite. Bravo. C'est 21%.
C'est bien, tant mieux.
Quel est le pourcentage de Françaises et de Français ayant plus de 3 rapports par semaine ? Marcel Amont, qui a été notre invité hier,
des cases à cocher avec des possibilités plutôt qu'une question ouverte ?
Non, ouverte. Nous sommes très ouvertes.
Alors,
ici.
Oui,
10%. Martine dit 10%.
10%.
10% pour Martine.
Martine est forte, hein, moi je ne sais pas. 8%.
Bonne réponse de Martine, 10%.
Bravo!
Ah, si t'es dehors comme ça, tu t'y connais, Martine. Hein, combien de Français se déclarent satisfaits de leur vie sexuelle?
Encore un pourcentage.
Ouais.
C'est que des pourcentages. Le juste prix, pourcentage, ah
oui,
chiffre.
Oui, j'aime pas les chiffres, moi, c'est pour ça.
Mais alors, les gens,
ça dépend.
Les gens racontent
qui se déclarent
des salades.
Satisfaits, oui. Alors,
oui, les gens racontent des salades.
Bon, 50%.
50%, Martine. Martine, réfléchis.
55%.
55%, tu te rapproches des 72%.
Ah, voilà.
Ils sont très heureux de leur vie sexuelle.
Veulent, voilà. Ils disent, mais en fait, 50%, oui, c'est trop peu.
Combien de Français ont déjà eu une expérience à 3? Je ne parle pas de la ville située dans l'Aube.
Oh, bah, bravo.
Et qui figure cependant dans mon inédit de ce soir.
Mais bien
nous
sûr.
Sommes allés filmer à 3.
Bien sûr.
Combien alors là,
à 3? Allez.
Donc.
Allez.
15%.
Pas mal.
12%.
C'est Anne Niva qui marque le point.
Ah,
c'est 16%.
16%.
16% à 3. En moyenne, combien de partenaires différents a eu une Française dans sa vie?
Donc une femme, on ne parle pas d'un homme.
Non.
Une femme.
Là, on est sur les Françaises.
Combien elle a eu d'amants?
7.
7 pour Martine.
Sur toute une vie?
Sur toute une vie. Comment ça, 609?
Non, mais une femme française,
une femme française.
Standard, combien elle avouerait avoir eu?
Oui.
Tu as dit combien?
7.
Moi, j'ai
dit
7.
8.
8. Ah, vous êtes très, très serré. Et la bonne réponse, c'est Martine, 7.
Bravo.
C'est le chiffre exact.
Bravo.
Parlons des Français maintenant. Combien de femmes un homme français moyen dit-il avoir eu dans sa vie?
Ah bah plus, là, plus. Forcément, plus, un homme va dire plus.
Tu écoutes Ganesh, il dit...
Donc,
il monte dans les tours, mais on sait bien que...
Mais pas tellement plus, peut-être.
Il dira... 12. Je sais pas. Un peu plus, peut-être. Ils sont tellement vantards.
Ils sont vantards. 12.
25.
Combien?
25.
Oui.
25.
Ah oui.
Et non, c'est Anne Niva qui marque le point, c'est 13.
Ah. Combien? Pas si vantard que ça, alors.
Quel est le pourcentage de Françaises qui se sont inscrites sur un site de rencontre?
Oui.
Du style Tinder, ouais. Où la pauvre
mythique.
Anissa passe ses nuits.
Absolument.
Ah, vous vouliez pas que j'en parle, faites
non,
ta gueule.
Vous pouvez, mais bon. Mais ce
les
soir, dans mon documentaire, des femmes, face caméra, admettent,
ah bah ouais.
Quelle est la honte?
Non, ah oui,
il
n'y
en a pas.
Honte, bien sûr.
Bon, 50%.
Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, moi.
Moi, je dis.
50%.
Moi, je dirais plutôt. Moi, je dirais plutôt 25%.
25% pour Martine. Bonne réponse, c'est 19%. 50%, Anne.
Non, mais oui, si.
Mais quand même.
Pourquoi pas?
Non, mais enfin, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est vraiment les nouvelles libertés sexuelles. J'en perds mes mots, Anissa, le bilan.
Et bien sûr, cette manche spéciale sondage sexe, c'est Martine Laroche-Joubert
ah oui,
qui est en
loin.
Tête
wow.
Face à Anne Niva.
De loin.
Et voilà, l'occasion de rentrer entendre notre ami, ce pauvre Michael Jackson. Tu sais, c'est un quiz, hein, c'est sérieux, c'est des pourcentages, c'est pas tes fantasmes. Hein.
C'est terrible, c'est terrible.
Tu t'es lâché, là, je comprends pas.
De l'actu, des quiz, des anecdotes et beaucoup de bonne humeur. C'est le programme tous les jours et même le week-end à partir de 16h sur Europe 1 avec Carl Zéro et ses tontons flingueurs.
Mes chers tatas, j'ai des chiffres alarmants pour vous. Près de 9 personnes sur 10, 86% dans le monde, ont cru ou croient à une fausse nouvelle, les fameuses infox, vues la plupart du temps sur des réseaux sociaux. Peut-être un peu plus rassurant, le chiffre retombe à 38% quand il s'agit de la France. C'est quand même beaucoup. Mes chers tatas flingueuses, les plus hautes instances du journalisme m'ont chargé du renouvellement annuel de vos cartes de presse. Je vais donc mettre votre sagacité légendaire à rude épreuve en vous soumettant à une farandole d'informations avec ce quiz un vrai, un fox.
Ganesh.
En Israël, un homme a braqué deux banques en 5 jours à l'aide d'une grenade et il est reparti avec plusieurs milliers de dollars. Quand il s'est fait arrêter, les policiers ont découvert que sa grenade était en fait un avocat qu'il avait pris soin de peindre avec application pour imiter l'explosif.
Alors, vrai ou faux ?
Pour moi, c'est vrai.
Moi, je dirais que c'est vrai.
Bonne réponse de Metata. Bravo. Anissa nous emmène au Canada.
Oui, au Canada, où McDo avait promis d'offrir des frites à ses clients de l'Ontario chaque fois que les Raptors, c'est une équipe de basket là-bas sur place, marquaient plus de 12 paniers à 3 points par match. Sauf que les Raptors ont réussi cet exploit à 54 reprises. Ça a donc coûté 6 millions de dollars à McDonald's. Est-ce que c'est une info ou une intox ?
Intox ?
À mon avis aussi une intox.
Mais non.
C'est vrai.
C'est une info.
Mais vous êtes des petites bulles.
Oh, pas si. Là, là, là.
Je suis désolé. C'est vrai. C'est vrai. McDo s'en souvient encore.
Ah oui, ça j'imagine.
Le clown a pleuré. Ganesh.
Il y a quelques mois, Charles Jackson Jr., retraité américain, emmène sa petite fille au resto vietnamien. Au dessert, la petite découvre dans son fortune cookie, ces petits biscuits qui vous délivrent votre avenir dans un bout de papier. Elle découvre donc une suite de numéros. Papy décide de les jouer inlassablement au loto. Il y a quelques jours, les numéros sont sortis et il a décroché 334,6 millions de dollars. Vrai ou faux ?
Une somme incroyable.
Dans quel pays ?
Aux États-Unis.
Oh là là, je dirais que c'est faux.
Tu dirais que c'est faux.
Moi, je suis comme Anne, c'est faux. Voilà. Tout ce que vous racontez, c'est faux.
Voilà, exactement. Exactement.
Vous êtes des toutes petites buses. Des bébuses. Vous avez perdu, c'était vrai.
Mais vous nous mettez que des infos vraies.
Oui,
mais
non, non, pas forcément.
On n'était pas là, on était sur. On couvrait une guerre. On voilà. Pas les
exactement, on avait d'autres soucis.
On avait d'autres soucis.
D'autres soucis en tête.
Oui, oui, oui.
Très bien. Anissa.
Une marque française vient tout juste de lancer un parfum qui sent le sexe.
Oh.
Celui-ci répond au doux nom de Sécrétion Magnifique, une fragrance qui sent bon, selon son concepteur, bien sûr, le sang, la sueur, les sécrétions et la salive.
C'est accablant. Est-ce que ça peut être vrai ?
C'est pas une mauvaise idée, hein ?
La femme d'affaires se réveille.
La femme d'affaires.
J'aurais dû avoir cette idée.
Alors moi, je dis c'est vrai. Ça a parfum de niche, mais bon.
Oui. Non, c'est de l'intox.
Sécrétion magnifique. Pour nous,
oui.
Les hommes.
Ah donc c'est un parfum
pour tout le monde.
Pour hommes.
Je ne quitterai plus cette voie.
C'est formidable.
C'est vrai.
Oh là là, donc c'est vrai. Bravo,
et ceux Martin. Et celles qui l'ont senti disent qu'il est, je cite, particulièrement agréable, mais très intrigant, cuivré, musqué et complexe.
Oui, on aurait bien voulu que vous nous l'apportiez pour qu'on puisse le sentir.
Eh bien, ça sera ton cadeau si jamais voilà. Tu gagnes. Ganesh, un dernier, allez.
À l'occasion de l'opération Paris-Plage 2019, la mairie de Paris s'apprête à lancer une grande opération Pédalib. Elle va en effet mettre à disposition des estivants toute une flotte de pédalos en libre-service. Limitée à 30 minutes, leur utilisation se fera uniquement sur le canal de l'Ourcq, bassin non fréquenté par les bateaux-mouches.
Oui, oui, bon, ça me semble plausible.
Ça sent bien le Anne Hidalgo. Hein.
Oui, c'est toi qui le dis.
Encore une idée à la con.
C'est toi qui le dis, mais je pense que c'est tout à fait vrai.
Vous êtes des énormes buses. C'était faux. Anissa, le bilan.
Mais il faut lui souffler, non, mais ça Anne peut Hidalgo. Lui donner l'idée. Ça peut lui donner l'idée.
Mais je sais qu'elle nous les écoute et on l'embrasse.
Voilà. Sur ce quiz spécial info ou intox, nous avons une égalité entre nos journalistes
bon,
aujourd'hui. Anniva et Martina.
Bon, je me rattrape un peu.
Dès 16h, tous les jours, du lundi au dimanche sur Europe 1, Carl Zéro et ses tontons flingueurs s'amusent avec l'actu.
Tata Martine, Tata Anne, vous détestez toutes les deux être réduites à votre seule condition de femme. Et encore plus de femme d'eux.
Oui.
Sur le terrain, vous êtes légales des hommes, évidemment, et vous ne vous interdisez aucune mission. Eh bien donc, voici le quiz Mec 2.
C'est l'histoire d'un mec. Vous la connaissez, non ? Non, dites-le, parce que quand les gens la connaissent, ça prend un air d'un con.
Je vais vous donner le descriptif d'un mari 2, qui vous permettra de retrouver qui est sa célèbre femme. C'est d'ailleurs avant tout à elle qu'on va s'intéresser. Je vous donne un exemple, Anissa.
Il n'existe pas, on ne l'a jamais vu, et pour cause, sa femme était pucelle et elle a fini en barbecue. C'est le mec de...
De Jeanne d'Arc.
Ah d'accord, des trucs historiques et
ouais.
Tout.
Il y a de
ça,
tout.
Tous les
Il
domaines.
Y a de tout.
Il était avec une des plus grandes écrivaines du XXe siècle. Il devait certainement nettoyer les voitures de sport qu'elle adorait et a dû tomber amoureux du charmant
François
petit
Sagan. Ouais, François Sagan.
Bravo. Bonne réponse.
Ça, c'est les voitures de sport, hein, tout de suite, oui. qui nous a mis sur la voie.
Il l'a épousée au début du XXe siècle. Elle était née en Pologne. Il a travaillé avec elle, mais il se dit que c'était elle la plus compétente.
Marie Curie ?
Bravo !
Alors, mais là, moi, de toute façon, j'en trouverai pas.
Si, tu vas en trouver.
Ah non.
Il a épousé une femme incroyable au destin unique. Il a accepté d'être un peu dans l'ombre de cette grande dame, une dame comme on n'en fait plus, une dame qui pouvait fumer des clopes avec Chirac et libérer les femmes en même temps. Elle lui a fait une place au Panthéon.
Simone Veil.
Bravo, Martine.
Elle l'a dit avant moi.
Il fut roi. Et pourtant, on se souvient surtout d'elle. Certains disent qu'elle fut plus importante que lui. Lui voulait prendre l'Italie. Elle voulait surtout la paix, mais il ne fallait pas l'énerver. Et quand elle est vénère, bon ben, ça finit en massacre. En massacre de la Saint-Barthélemy. C'était
Catherine
le mari
Médicis.
De... Ouais. Catherine de Médicis.
Ouais. Bravo, Martine.
Et le dernier, qui c'est qui s'y colle ? Allez, Anissa, hop.
Il a épousé une femme lettrée et intelligente, mais ne se doutait pas qu'il allait épouser une des plus grandes écrivaines de l'histoire et aussi une des premières féministes. Lui fut avocat, et ça ne doit pas être simple quand ta femme a un prénom d'homme.
Il était le mari de...
Prénom d'homme.
Je vais vous dire son nom, il s'appelait Casimir Dudevant, ça aide ?
Ah, Georges Sand.
Bien !
Oh, bah dis donc.
Oh, bah dis donc.
Bravo.
Martine, t'as démarré diesel, juste, mais là, ça y va.
Quelle concentration.
Est-ce que j'ai mon bac, là, ou pas ?
Pas encore. Pas encore, il reste une partie, je suis désolé, on enchaîne.
En tout cas, sur cette manche, Martine Laroche-Joubert, vous êtes en tête face à Anniva. Des tontons flingueurs, Carl Zéro, de l'actu, des jeux et de la bonne humeur. C'est votre programme, même le week-end, sur Europe 1 à partir de 16h.
Alors puisque, mes chers tatas, le reportage est votre religion, que l'amour de l'information coule dans vos veines, nous voici amenés à conclure en musique, logiquement, avec des chansons qui parlent de la presse. C'est le Blind Test, playlist de journalistes. J'attends de vous l'interprète et dans le meilleur des cas, le titre de la chanson ou de presse qui en découle. Premier extrait.
Et c'est Edith Piaf hein.
Moi, je crois que je vais me taire pendant toute l'émission.
C'est clair. Edith Piaf.
Enfin, tu connais Edith Piaf, Anne.
Oui, je
après,
te rassure.
Pourquoi t'as pas dit Edith Piaf?
Parce que Martine va beaucoup plus vite.
C'est bon, le titre de la chanson?
Ah non, j'ai pas le titre.
Le kiosque en chanson, faut dire, c'est pas hyper connu.
Non. Ouais, non.
Alors, deuxième chanson, il s'agit d'un chanteur un peu plus jeune qu'Edith Piaf, mais pas tant que ça, mais quand même.
Journalistes aigris, pervers ou jalousies, que vous n'appréciez pas, cela est votre droit, dites-le simplement.
Bonne réponse.
Ça, je peux vous dire que je sais pas comment j'ai fait.
Ben, tu vois, il était venu naturellement. Oui. Florent Pagny. Et le titre.
Ah non,
célèbre.
Le titre hors de question.
Mais si, presse qui ?
Qui fait chier.
Oui, ça voulait dire ça. Attention, ça, c'est un gros garçon très connu.
Tu rêvais d'obtenir le Grand Prix Pulitzer.
Eddie Mitchell, mais
oui,
bien sûr.
Mais pourquoi vous avez dit gros garçon?
Oui, ça m'a aussi induit en garçon.
Pour vous enduire d'erreur.
Ouais, non, mais exactement. Ça c'est nul ça.
Bah oui, c'est pas sympa. Bah,
j'ai le droit d'être chafouin.
Oh non, mais ça c'est nul. Gros garçon.
Bah c'est vrai qu'il est bien en chair quand même.
Mais non, Ganesh, non, mais non, mais non, pas du tout.
Franchement,
non,
pas du tout.
C'est pas du tout son
image. Il est athlétique. Eddie Mitchell est athlétique.
Non, mais il est mince.
Il est mince.
Oui.
Eddie Mitchell est mince.
Oui.
Ça fait au moins 40 ans qu'il est plus mince. Bon, la suivante.
Oh là là.
7 janvier 2015, j'ai pas envie d'aller au lit. Je préfère prendre un stylo car ce soir, je suis chargé.
Alors comment il s'appelle ?
Les artisans de la liberté.
Il est grand.
Encore malade.
Oh, quand même. Oh.
Quand même.
Ça, c'est très, 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 très facile. Écoutez bien. Let's spend the night
together. Now I need you more. C'est les Rolling Stones.
Let's spend the night. Bonne réponse.
De Martine.
Mais quel rapport avec la presse ?
Ça m'a troublé aussi, excusez-moi.
Quel rapport avec la presse ? À toi de me le dire, Martine. Fais appel à ta mémoire.
Attends,
le titre de la chanson,
Martine. Tu vas raconter
oui.
Dans le Figaro.
Chez Castel.
Ah oui, Mick Jagger. Ah,
qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ?
Écoute, il n'a pas chanté en tout cas.
Et qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Non, il m'a invité. On a dansé chez Castel il y a très longtemps. Avec Mick Jagger.
Mais, c'est sympa ça.
Ouais. Et, mais j'étais mariée et tout.
Il y avait Patrick
voilà,
qui était là.
Il y avait Patrick.
Il faisait un peu la gueule, Patrick.
Exactement, Patrick, c'était mon mari. Ah, ouais. Voilà, et Mick Jagger lui a dit, écoute, si tu veux la garder, laisse-la libre.
Ah, quelle bonne phrase Magnifique. Il avait raison.
Et voilà. Incroyable, et tu nous avais caché ça. Allez, un dernier, attention.
On dirait un jingle de JT.
Eh ben c'est ça.
C'est un jingle de JT.
Mais lequel ?
Celui de qui ? D'une star des années 70.
Oh, je sais pas.
Début 80. Le journaliste que le monde entier nous enviait.
À 13h ?
À 13h.
À 13h.
Alors, Marie-Laure.
Eh oui, mais, ah oui, oui.
Alors,
non, Yves Rosy.
Voilà. Alors, Marie-Laure,
c'était
le bilan.
C'était son jingle. Ouais, c'est
Anissa,
ça
est avec nous, Anissa, bien sûr. Le bilan.
Alors, je compte les points. Sur ce blind test, c'est Anniva qui finit en tête face à Martine Laroche-Joubert.
Tu reviens de loin. Hein.
Mais sur l'ensemble du match, ouais. Aujourd'hui, c'est la France d'en haut qui l'emporte et c'est Martine Laroche-Joubert qui gagne ce match.
Oh, la félicite.
J'en profite pour vous rappeler l'actualité de notre grande gagnante du jour, Martine Laroche-Joubert. Vous venez de sortir un livre, Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre. Il est sorti fin mai aux éditions du Cherche Midi. Vous nous racontez tout, vos rencontres avec les pygmées de Centrafrique jusqu'aux deux guerres du Golfe. Vous parlez même de vos erreurs, de vos regrets de reporter. Notez ce livre qu'il faut absolument lire, Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre.
Europe 1. Tous les week-ends de 16h à 18h sur Europe 1, vous écoutez Carl Zéro et ses tontons flingueurs. Carl revient demain, dimanche, à 16h.